Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 7 octobre 2015. Bienvenue donc à cette émission consacrée au paludisme. Nous allons faire le point avec nos invités sur les risques liés à l'augmentation du cas de palu cette année. Plus de 200 000 cas supplémentaires pour l'année 2015. Alors, nos invités, Dr Issiaka Sagara du Malaria Research and Training Center, MRTP, Dr Mamadou Karim Touré, spécialiste médecine et catastrophe, donc Dr Mamadou Koulibaly, qui est médecin-chef dans la région de Tombouctou, précisément à Goundam. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Studio Tamani. Les services sanitaires de Bamako ont constaté une augmentation de 26 000 cas supplémentaires de paludisme en 2015 comparativement à l'année dernière. Les régions de Gao et de Kidal suivent derrière avec d'autres augmentations plus significatives. De façon générale, de 2014 à 2015, il a été constaté une augmentation de 201 842 cas positifs de paludisme dans le pays. Au Mali, le paludisme est responsable de 37,5% des motifs de consultation dans les services de santé. Il représente la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans et la première cause d'anémie chez les femmes enceintes. Alors aujourd'hui, avec l'augmentation de plus de 200 000 cas supplémentaires cette année, est-ce qu'il y a un risque d'épidémie? Nous allons essayer de le comprendre avec Dr Issiaka Sagara de l'AMRTP. Bonjour docteur.
Bonjour Radio Tamani.
Alors aujourd'hui, avec l'augmentation de 200 000 cas supplémentaires de paludisme cette année au Mali, est-ce qu'il y a un risque d'épidémie, docteur?
Ok, actuellement, difficile de dire risque d'épidémie. Nous devons parler plutôt de recrudescence de cas de paludisme. On pourrait venir en détail si besoin, mais on ne peut pas confirmer qu'il y a épidémie de paludisme au Mali. Mm. Il y a tout simplement une recrudescence, et cette recrudescence, de manière globale, est souvent attendue en fonction des pluviométries. Effectivement, nous sommes en saison de pluie, donc surtout encore vers la fin des saisons de pluie, mais recrudescence de paludisme est connue. Et il est aussi vrai que quand on parle donc de pluviométrie, vous comprenez aisément avec moi que le climat est capricieux de plus en plus avec les variations donc de pluviométrie d'une année à l'autre. Nous pouvons avoir des recrudescences. Mais véritablement parler d'épidémie, c'est une autre chose. Si on veut, on peut en développer. Il y a des critères spécifiques, des définitions qui sont pas vérifiables tout de suite. Avec les chiffres que vous donnez.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Sagara. Alors, docteur Touré, vous qui êtes avec nous dans ce studio, dites-nous qu'avec avec ces 200 000 cas supplémentaires cette année, s'il y a un risque de panique aujourd'hui.
Je remercie les studios Tamani, je remercie nos auditeurs. Je rejoins tout à l'heure mon collègue qui vient de parler. En fait, le Mali est un pays endémique du pali, donc on ne peut que parler de recrudescence. Donc, et cela, c'est en fonction de variations climatiques. Hein. Donc, je pense pas qu'on va se paniquer par rapport à ça, parce que le paludisme est toujours là avec nous. On vit avec, il faut juste se protéger, c'est tout.
Merci beaucoup, docteur Touré. Alors, quelqu'un qui est dans la zone, dans les zones donc concernées, docteur Mamadou Koulibaly, vous êtes médecin-chef au centre de santé de Goundam. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est la région de Tombouctou est en diminution, en nette diminution, 22 000 cas de moins donc que l'année dernière. Dites-nous aujourd'hui si tout de même votre région est sortie d'affaire.
Bon, je ne peux pas dire que notre région est sortie d'affaire parce que quand je prends mon district sanitaire, Il y a vous sur 18 aires de santé avant la crise. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai que 13 aires qui sont fonctionnelles. Et j'avoue que la collecte des données également, il y a d'énormes problèmes par rapport à ça. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est sorti de la chose, quoi.
Alors aujourd'hui, Tombouctou fait partie des trois régions du Nord donc ciblées et potentiellement victimes donc de cette augmentation du cas de paludisme. Est-ce que vous avez une vision plus large de façon générale dans le Nord du pays et concernant principalement la région de Gao?
La région de Tombouctou.
Oui, mais vous êtes dans la région de Tombouctou, mais est-ce que vous avez une idée de l'augmentation du cas de palud dans la région de Gao?
Bon, vraiment, je n'ai pas cette information, mais j'avoue, nous avons été alertés par rapport à l'augmentation des cas dans une de mes aires de santé, notamment dans l'aire de santé de Gargando. Donc, comme je l'ai dit par rapport au journal, donc nous avons dépêché une mission qui a fait quand même une évaluation. Sur 120 cas probables, nous avons pu quand même poser le diagnostic par rapport à 79 cas. Donc, ce qui veut dire que le palud quand même est présent, mais quand on parle d'épidémie, ça c'est autre chose.
Alors aujourd'hui, vous préférez rester prudent par rapport aux collectes des données dans la région de Tombouctou, dû notamment à la crise et à l'accessibilité des populations aux aires de santé. Qu'est-ce qui fait que le Nord est plus vulnérable par rapport aux autres villes du Sud en termes de paludisme en cette période hivernale?
Bon, c'est une zone à pourtant.
Alors, problème de liaison avec le docteur Koulibaly, médecin-chef au centre de santé donc de Gundam. Alors, Ishaka Sagara, vous êtes de Malaria Research and Training Center, MRTC. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la vulnérabilité des villes du Nord par rapport à celles du Sud, en termes de risque de palud?
Très bien, ça c'est effectivement une bonne question et la réponse est aussi relativement commune. C'est lié le fait que effectivement les zones du Nord sont connues, nous le savons déjà, comme des zones à possibilité épidémique. Et c'est là qui peut être lié tout simplement, comme je le disais, aux caprices climatiques, des grandes variations pluviométriques. On sait par exemple des zones comme Kidal. On sait par exemple que si la pluviométrie, par exemple, dépasse 200 mm par an, on sait que, et c'est pendant la saison de pluie, on sait qu'il y a un risque effectivement épidémique qui peut s'annoncer. Donc, il y a le climat qui est en faveur, mais il n'y a pas que ça. Et aussi, vous êtes d'accord avec moi que si le système de santé est désorganisé, il est clair que ça veut dire que les prises en charge de cas de palud donc peuvent ne pas être également faites, et cela également est une autre paire de manches qui s'y ajoute, parce que cette zone effectivement c'est connu que la population de cette zone contrairement, si je peux me permettre, aux populations en tout cas vers le sud où la pluviométrie est constamment plus abondante, disons donc ils sont plus et moins exposés aux parasites, en d'autres termes, d'où donc ils ont moins d'immunité, voire pas d'immunité, en fonction de où ils se trouvent par rapport au paludisme. Tandis que nous qui sommes ici au niveau des zones où les pluies sont plus régulières, nous sommes relativement plus exposés donc aux parasites. C'est comme si naturellement nous sommes en train de nous vacciner et donc l'immunité répond mieux pour même prévenir les accès palistes par rapport aux zones du Nord.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Sagara. Nous allons tenter un exercice avec vous. Le studio va retenter de vous joindre pour que la ligne soit meilleure, car il est difficile pour les auditeurs de pouvoir vous joindre et pouvoir vous entendre nettement donc et mieux comprendre ce que vous nous dites. Merci beaucoup, docteur Sagara. Alors, docteur Touré, Mamadou Karim Touré, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que par rapport à la pluviométrie, les districts sanitaires enregistrent beaucoup plus de cas de palu? Où est-ce que on peut situer la faille dans cette organisation?
Alors, je pense que en plus de tout ce que M. le Dr Sakara vient de dire, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut tenir compte, parce qu'il y a le réservoir qui est déjà là, l'environnement s'y prête, et tant que ces réservoirs continuent et qu'on est la population est exposée, il va de soi que la pathologie continue. Donc je pense que en plus des variabilités saisonnières et tout ce qu'il vient de dire, il faut tenir compte de ces paramètres-là. Parce que combien de Maliens dorment sous moustiquaire, point d'interrogation. Et même si il arrive que les gens utilisent les moustiquaires, combien utilisent les moustiquaires imprégnés, ça c'est la première, l'autre manche de questions. Il y a également les facteurs qui entretiennent les vecteurs, donc les sources d'écoulement d'eau qui, donc on sait que partout dans nos villes, l'insalubrité est là, et puis l'écoulement d'eau ne se fait pas comme il faut, donc tout est réuni pour que le vecteur inducteur du palu soit là pour faire le mal.
Alors si on considère la grande campagne de distribution de moustiquaires imprégnés qui s'est déroulée cette année à Bamako, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait autant de cas supplémentaires, 26 000 cas supplémentaires, et pourtant la campagne a concerné tous les Bamakois?
Bon, pas forcément tous les Bamakois. Je pense que dans le programme de lutte contre le palu, il y a un certain nombre de règles qui sont suivies. Donc, le programme de distribution de moustiquaires imprégnés concerne un certain nombre de populations qui sont vulnérables, notamment les enfants et puis les femmes enceintes. Donc, les enfants et les femmes enceintes représentent quand même un pourcentage infime par rapport à la population générale. Donc je pense que la distribution, on ne peut pas prendre seulement le facteur distribution des moustiquaires comme élément de lutte contre le paludisme. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir compte.
D'accord, merci beaucoup. Nous allons observer une courte pause et nous retrouverons les autres débatteurs pour aller plus en profondeur dans cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur le paludisme qui est en nette progression au Mali, plus de 200 000 cas supplémentaires enregistrés et donc à Bamako et dans deux autres régions du nord, à savoir Gao et Kidal. Alors pour la seule ville de Bamako, 26 000 cas supplémentaires, et pour être plus complet, dans la région de Gao par exemple, il y a une augmentation de 29 000 cas supplémentaires. À Kidal, par exemple, il y a 41 000 cas supplémentaires. Donc, une nette augmentation donc de cas de palu dans le pays. Alors, nous allons du côté du docteur Sagara, Isiaka Sagara, du Malaria Research and Training Center, MRTC. Tout à l'heure, on parlait de la campagne de distribution entamée par le gouvernement du Mali pour la ville de Bamako. Dites-nous si cette campagne a été efficace à côté donc des 26 000 cas supplémentaires.
Vous voulez pour Bamako?
Oui, pour Bamako.
Oui, oui, bien sûr, ça a été efficace, mais le problème, c'est comme je le disais, il y a des facteurs qu'il faut en tenir compte. Encore une fois, la pluviométrie fait une différence. Et ensuite, il y a aussi, il faut faire attention avec les cas présumés, parce qu'en réalité, beaucoup de cas sont dits des cas de palu qui ne sont pas confirmés. Donc, si un tient compte de ce facteur, il y a vraiment une fenêtre pour de correction. Et ça, nous sommes tous conscients qu'il faut effectivement interpréter les différentes données avec caution.
Alors, on nous fait signe que nous avons pu joindre donc le docteur Koulibaly, Mamadou Koulibaly, médecin-chef donc du centre de santé de chef donc du médecin-chef de Goundam dans la région de Tombouctou. Docteur, la vaste campagne de distribution de moustiquaires imprégnés du gouvernement, est-ce que cette campagne a touché votre région?
Pour le moment, nous n'avons pas fait de distribution de masse. Mais quand même, nous avons des dotations de moustiquaires de la part de PECI, à travers le programme national de lutte contre le palud, qui concerne surtout les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes.
Alors, à Bamako, par exemple, cette année, il y a eu une distribution, un Bamakois, une moustiquaire. Est-ce que ce genre d'activité a été, s'est déroulé dans votre région, dans votre district sanitaire?
Pour le moment, nous n'avons pas fait de distribution dans ce sens.
Est-ce que vous pensez que la réduction de cas de palud dans une localité dépend en grande partie de l'utilisation des conditions édictées par PECI Mali et par le programme national de lutte contre le palud, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés?
L'utilisation des moustiquaires a un impact quand même positif, mais cela ne peut pas quand même nous permettre de dire de façon catégorique que ça la cause de l'abaissement de la baisse des cas de palud est due à ça, mais il y a un impact positif. Comme je l'ai dit, c'est surtout la collecte des données au jour d'aujourd'hui au niveau de Tombouctou. Il y a un sérieux problème par rapport à la collecte, compte tenu du fait qu'il y a des aires où il n'y a pas d'information, de système d'information entre les districts sanitaires et les aires de santé. J'avoue, la collecte pose d'énormes problèmes et il y a beaucoup d'aires de santé qui ne sont pas quand même ouvertes.
Merci beaucoup, docteur Koulibaly. Alors, docteur Sagara, Ishaka Sagara du centre du MRTC, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce paradoxe-là pendant que, au plan mondial, on délivre le prix Nobel de recherche contre le palud à certains Nobel, à certaines personnalités, et que dans certains pays du monde, on puisse subir de tels cas encore?
Vous savez, il y a des efforts qui sont réellement en train d'être faits. Et encore, comme je l'ai dit, il faut mettre le tout dans son contexte. Le contexte qui est, par exemple, dans certaines situations où vous voyez les mouvements des populations, il y a les dénominateurs qui ne sont pas toujours maîtrisés. Donc, les chiffres absolus comportent effectivement des biais d'interprétation. Encore si vous ajoutez souvent effectivement à la méthode de non-confirmation, souvent quand même faite, même si aujourd'hui il est recommandé, il est dit dans tous les systèmes de santé que le paludisme doit être confirmé et documenté. Donc il y a encore effectivement ces biais, même si les efforts sont en train d'être faits. Mais ceci dit encore, le niveau où nous sommes en ce qui concerne encore pour le Mali, mon collègue l'a dit, nous sommes réellement encore dans une zone endémique du paludisme. Donc, les recrudescences saisonnières, nous allons encore continuer à vivre avec pour un peu de temps. Et il y a les mesures, nous savons, qui sont efficaces, que les uns et les autres doivent observer. Mais comme le collègue disait, si vous prenez les moustiquaires, c'est bien, mais les moustiquaires ont leurs limites. Vous êtes d'accord avec moi que avant que vous ne partiez vous coucher, les moustiques peuvent encore vous piquer. Et là, tout de suite, vous comprenez qu'on peut avoir votre palud tout simplement avant même d'y aller se coucher sous moustiquaire. Donc, c'est un facteur limitant. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Sans encore, vous le savez, nous n'avons pas encore de vaccin, en tout cas disponible pour le moment. Donc, si vous ajoutez à ça, et ce qui est la prévention, la sinoprévention du paludisme saisonnier, ça n'a pas encore atteint tous les systèmes, j'allais dire tout le Mali. C'est en train effectivement d'être déployé, mais même là, ça concerne une couche limitée, c'est-à-dire les moins de 5 ans. Donc, si vous prenez tout ça, c'est pour vous dire que les recrudescences saisonnières, il va falloir toujours en tenir compte. Le plus important, c'est vraiment encore une fois, sachant maintenant que la, pendant les saisons de pluie, il y aura une recrudescence. Il s'agit de prendre les mesures qu'il faut, en d'autres termes, pour que le système de santé soit renforcé en maintenant des diagnostics, en maintenant des traitements, et aussi, bien entendu, les espaces pour accueillir les cas simples, mais aussi les cas graves.
Merci beaucoup, docteur Sagara. Je rappelle que nous avons convié à cette émission le programme national de lutte contre le paludisme, mais malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à cette demande, raison pour laquelle donc cette émission se tient sans leur le représentant donc du PNLP. Alors, docteur Touré, docteur Mamadou Karim Touré, aujourd'hui, l'État a émis un communiqué donc avant-hier par rapport à cette question de la recrudescence de cas de palu au Mali, plus de 200 000 cas dans tout le pays, et en énumérant également les efforts du gouvernement par rapport à cette situation, notamment pour la région les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako, une distribution de moustiquaires, 6 300 000 moustiquaires imprégnés, distribués donc à ces différentes populations, en tenant en compte par exemple du nombre de personnes à utiliser ces moustiquaires imprégnés. Est-ce que on peut imputer aujourd'hui cette recrudescence à la mauvaise foi ou bien à la responsabilité des populations?
Alors, je pense que cette question, il faut le prendre avec prudence. Ce que je pourrais quand même vous dire, c'est que la prise en charge du palu, la gestion de ces fléaux passe par le changement de comportement. On a beau donner les moustiquaires, tant qu'on ne change pas le comportement et que le vecteur inducteur sont là, si tous les ingrédients devant entretenir ce fléau sont là, ça, je ne dirais pas qu'on ne va pas gagner, mais on aura du chemin à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Certes, le gouvernement a fait des efforts, mais est-ce que la prise en charge ou la lutte contre le palu se limite seulement à l'usage des moustiquaires imprégnés? J'en suis pas sûr. Le changement de comportement joue un rôle fondamental dans ça.
Alors, nous allons du côté de Goundam rejoindre Mamadou Koulibaly. Vous êtes médecin-chef donc de la localité dans la région de Tombouctou. En ville, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, par exemple l'insalubrité dans la capitale par rapport à ces cas supplémentaires. Mais dans une localité comme Goundam, quels sont les risques supplémentaires dont sont exposées les populations?
Bon, les risques supplémentaires, c'est surtout, comme je l'ai dit, l'insalubrité existe partout. C'est comme mon collègue vient de le dire, c'est des mesures individuelles. Également, au nord, il y a des habitations de fortune, notamment des tentes tout autour des mares, ce qui peut être des risques par rapport à la prolifération de moustiques de l'anophèle.
Donc, les eaux stagnantes en sont pour beaucoup.
Tout à fait.
Merci beaucoup, docteur Koulibaly. Vous êtes médecin-chef de Goundam, dans la région de Tombouctou. Alors, Issiaka Sagara, de Malaria Research and Training Center. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement au MRTC par rapport à cette question de paludisme?
Bien, vous comprenez avec moi que nous sommes, si vous voulez, le bras technique du PNLP. Et nous travaillons chaque fois qu'il y a des situations comme ça et nous sommes consultés. Vous parlez effectivement de la gestion de cette épidémie, parce que vous appelez épidémie, si je peux me permettre. Et nous avons été associés avec le PNLP et avec le ministère de la Santé, et nuit et jour, par rapport aux mesures à prendre, aux vérifications à faire et les mesures d'accompagnement à faire. Je disais tantôt se rassurer que les intrants de prise en charge sont disponibles et des outils sont déployés, des outils connus, existants, efficaces sont rapidement déployés. Donc nous sommes des bras techniques à travers du PNLP. À travers le PNLP, nous avons conseillé au ministère et je crois que effectivement, certainement les mesures d'accompagnement que le gouvernement est aussi en train de prendre sont vraiment aussi, nous sommes tout à fait impliqués. Donc, pour vous dire que dans la recherche opérationnelle, nous accompagnons vraiment le PNLP dans tous ces aspects.
Alors, qu'est-ce que votre département fait par rapport à cette particularité des régions du Nord, particulièrement exposées au risque de palu? Quelles sont les stratégies supplémentaires que vous accordez à ces trois régions?
Le gouvernement l'a autorisé, mais ce qui est convenu, c'est par exemple, si je prends la région de Kidal, c'est rapidement de faire ajouter une stratégie qui n'est pas encore là-bas, qui est ce qu'on appelle la sinoprévention du paludisme saisonnier. C'est-à-dire pendant cette période effectivement de recrudescence connue, comme je l'ai dit, du paludisme, il s'agit de distribuer des médicaments connus qui sont la sulfadoxine pyrimétamine, couramment appelée FP, associé à l'amodiaquine, comme on l'a dit. Donc, ces deux médicaments combinés, nous savons que préviennent à 80% les cas simples et les cas graves si les gens les utilisent. Et c'est des outils très efficaces. Aucun vaccin sur le papillarine pour le moment n'est aussi efficace si c'est pris. Et pendant cette période, donc, le gouvernement, sur nos conseils et avec le PNLP, est en train de prendre des mesures. Par exemple, pour y faire rapidement sur toute la population, au lieu que ce soit, par exemple, chez les moins de 5 ans. Donc, vous me demandez qu'est-ce que, effectivement, le département de recherche fait, c'est, par exemple, un conseil technique que nous avons fait avec le PNLP, le gouvernement est en train de voir avec les partenaires techniques comment implémenter cela, par exemple.
Merci. Allez-y.
Je disais sans oublier le renforcement des capacités pour toutes les régions du Nord, mais aussi au Sud. C'est-à-dire par rapport à se rassurer que le système de santé est renforcé. Il y a tantôt mon collègue qui disait, par exemple, que certains systèmes de santé, celui où il y a, par exemple, une insuffisance de personnel, et probablement aussi les intrants dans certains lieux. Donc, il est clair que si le cas du Nord, je crois que voilà la phrase, il faudrait dire que la désorganisation du système de santé peut aussi tout à fait expliquer cette recrudescence.
Due notamment aux conditions sécuritaires.
Exactement. Donc quand le système de santé ne fonctionne pas, il est clair que c'est connu selon l'OMS que c'est un facteur de risque de recrudescence, voire aussi d'épidémie de paludisme, en plus du facteur de la pluviométrie.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Sagara. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre avec cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur l'augmentation du cas de paludisme, plus de 200 000 cas supplémentaires cette année de paludisme dans tout le pays. Et Bamako fait partie donc des zones qui voient leur taux de paludisme en augmentation, mais il n'y a pas le feu en la demeure. Selon l'OMS, le taux donc de endémique pour atteindre l'épidémie tant redoutée n'est pas encore atteint. Et nous sommes avec trois invités pour en parler. Docteur Issiaka Sagara du Malarian Research and Training Center, MRTC. Docteur Mamadou Karim Touré, spécialiste de médecine et catastrophes. Docteur Mamadou Koulibaly, médecin-chef de Goundam dans la région de Tombouctou. Alors, Mamadou Koulibaly, vous êtes médecin-chef de Goundam. En plus donc des cas de paludisme, de ces cas supplémentaires cette année, il y a deux cas de méningite qui ont touché donc mortels dans le nord de façon générale. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette maladie soit de retour?
Bon, les cas de méningite qu'on a enregistrés, donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des déplacés dans les pays voisins, notamment au Burkina, en Mauritanie, et j'avoue, c'est déplacé, beaucoup d'entre eux sont retournés. Donc, même sans ça, il y a des cas sporadiques de méningite.
Donc, vous pensez que c'est de l'importation?
Bon, ça, c'est, on peut donner une explication par rapport à ça, mais c'est des cas sporadiques que nous, nous avons quand même enregistrés de la 34e semaine à la 40e semaine. Donc, ce qui veut dire que le seuil d'alerte même n'est pas atteint à plus forte raison le seuil épidémique.
D'accord. Alors, justement, concernant cette question du seuil d'alerte épidémiologique, donc, que l'OMS dit que le Mali n'a pas encore atteint, il y a des cliniques mobiles, si je ne m'abuse, actuellement au nord du pays. Est-ce que dans la région de Tombouctou, par exemple, à Goundam, vous êtes concerné par ces cliniques mobiles?
Bon, nous avons des cliniques mobiles qui sont financées par des partenaires locaux. Donc à Goundam, nous avons l'ONG internationale, c'est-à-dire le consortium ONG AMCP Aliment, donc qui intervient, qui a même ouvert des centres au nord, parce que depuis notre retour en 2013, il y a des aires qui n'ont pas pu être réouvertes. Donc avec Aliment, nous avons pu ouvrir certaines aires de santé et dans certaines aires non fonctionnelles, il y a des cliniques mobiles à l'endroit de la population pour prodiguer les paiements complets.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un nombre conséquent, un nombre assez important d'ONG qui épaulent les services sanitaires de l'État?
Bon, nous avons des ONG conséquents avec les moyens de bord. Par exemple, à Goundam, nous avons AMCP Aliments, nous avons AMSS à peu près. Et 6 ONG qui interviennent surtout dans le cadre de la nutrition, de la malnutrition, la gestion de la malnutrition. Et il y a certains qui interviennent dans les deux, la santé et la nutrition. Mmh. Donc on a à peu près une sixième et 6 ONG qui interviennent, qui nous appuient par rapport à des programmes.
Mmh. Alors, on sait que l'insécurité est dans, les populations sont enclines à beaucoup de mobilité. Est-ce que vous parvenez à atteindre toutes les populations, par exemple, de Goundam?
C'est ça le gros du problème. L'insécurité résiduelle qui prévaut, j'avoue, c'est pas facile du tout de couvrir l'ensemble du cercle, comme je l'ai dit. C'est très difficile, compte tenu de l'insécurité. Les gens ne peuvent pas, on ne peut pas appliquer le programme à la lettre, car les bandits armés sont dans les alentours et qui nous empêchent d'évoluer quand même sérieusement pour le bonheur de la santé de la population qui est sous notre responsabilité.
Merci beaucoup, docteur Touré, docteur Koulibaly, pardon, Mamadou Koulibaly, médecin-chef de Goundam dans la région de Tombouctou. Alors, revenons sur ce paradoxe encore une fois de la région de Mopti. Mopti qui est une île au beau milieu d'eau stagnante. Mopti qui est parfois indexée par rapport à ce taux élevé de paludisme. Pourquoi cette région échappe aujourd'hui, cette zone de Mopti échappe au paludisme, docteur Touré?
Alors, je ne sais pas si Mopti échappe réellement au palu.
Selon le communiqué,
voilà,
on ne fait pas référence à Mopti.
Mais ce qu'on vit actuellement, qu'on vit actuellement au nord s'explique tout simplement par ce que vient d'expliquer mon collègue Sakara, c'est la désorganisation du système de santé. Parce que le palu qui tue, c'est le paludisme grave. Et tant que le système de santé n'est pas organisé comme il faut, toutes les chaînes ne sont pas là, il va de soi que les dégâts soient énormes. Donc je pense que Mopti, en termes d'organisation du système de santé, Mopti est mieux loti que Goundam et autres régions du Nord. Je pense que ça pourrait s'expliquer par rapport à cela.
Alors, nous allons voir avec Dr Sagara. Docteur, cette particularité de Mopti, on sait que l'hôpital a été rénové. Il y a d'importants moyens qui ont été consacrés à cette localité. Est-ce que c'est cette bonne organisation justement dont parlait Dr Touré tout à l'heure, qui fait que Mopti est exempt donc de ces cas supplémentaires de palu?
Décidément, oui, c'est, mon collègue a bien dit, c'est vraiment si le système est organisé et que les intrants sont en place. Vous savez, le palu, si les gens se font voir dans les 24 heures après l'apparition des premiers signes, nous pouvons faire en sorte que le palu n'est pas un problème de santé publique. Et d'où je rejoins aussi précédemment, mon collègue a dit qu'il y a aussi au niveau du public, il faut aussi en parler. Au-delà de l'État et les partenaires qui ont aidé, il faut que les gens comprennent que pour le palu, quand il y a les premiers signes, le palu n'a pas un signe c'est, il n'y a pas de signes spécifiques du panneau. Donc, mais les signes les plus fréquents sont connus. Fièvre, maux de tête, vomissement, etc. Donc, frisson. Donc, quand vous avez, en tout cas, un des signes les plus fréquents, juste consultez le centre le plus proche. Et aujourd'hui, le centre, tout le monde doit faire un test rapide, qui sont tout à fait fiables. Et une fois que ce test est fait et que les traitements qu'on en dispose sont efficaces, on ne doute pas de l'efficacité du traitement, on ne doute pas de l'efficacité du diagnostic. Et une fois que le traitement est donné, tout simplement par voie orale, gratuitement d'ailleurs, chez les moins de 5 ans, et que si les gens prennent, vraiment, il n'y a aucune chance que le palud évolue vers la gravité.
Donc
voilà ce que je dois ajouter pour dire que, effectivement, cela est le cas, en tout cas plus le cas, j'imagine, dans les régions vers le sud par rapport aux régions du nord, à titre d'exemple. Et si vous ajoutez encore à ça, le facteur pluviométrique est relativement plus élevé en relativité, là-bas, expliquerait tout ça.
Alors, docteur, restons sur ces traitements. Quel est le coût d'une thérapie, par exemple, de palud en moyenne?
Le paludisme, je vous avoue que chez l'enfant, au Mali, l'État et ses partenaires ont rendu gratuit le traitement du paludisme chez les moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Maintenant, vraiment, ça c'est clair. Maintenant, au niveau de ceux qui ne sont pas de ce groupe cible, et il y a une subvention. Donc, au niveau, en tout cas, des systèmes de santé publique, c'est sûr que mes collègues sont mieux placés pour en parler. Et ils vont vous dire le prix, en intégrant bien sûr aussi le système de consultation. Mais ce que moi je peux dire, c'est que les intrants, en tout cas des traitements, sont aussi subventionnés, par exemple pour les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine pour le traitement du paludisme simple, c'est aussi subventionné chez les plus de 5 ans et les adultes. Donc, c'est ce que je peux dire. Le prix spécifique, je vais laisser à mes collègues qui sont directement le terrain.
D'accord, merci beaucoup docteur Sagara, vous êtes de l'MR de MRTC. Alors docteur Touré, Mamadou Karim Touré, dites-nous si le traitement de paludisme est accessible aujourd'hui aux populations.
Bien entendu, le traitement est accessible, mais avant d'aborder ces sujets, je reviens un peu par rapport à la question précédemment posée, par rapport au coût de la prise en charge. Le coût, ce n'est pas que seulement le médicament, ce n'est pas que le coût du médicament. Le coût, c'est par rapport à tout ce qui entoure comme complication par rapport au palud. Imagine quelqu'un qui attrape le paludisme, il va s'absenter de son service. Toutes les responsabilités qui incombent à cette personne-là seront bloquées, ainsi de suite. Donc c'est ça, le coût, on ne peut pas l'estimer. Donc le palud, c'est un problème de santé publique. Donc, moi, je ne vois pas le coût en termes de juste prix de médicaments. Alors, par rapport à l'accessibilité du médicament, oui, il y a des molécules qui ont été déjà dites par mon collègue Sagara. Plusieurs molécules sont sur le marché. Il y a des combinaisons à base d'artémisine. Il y a celles de Kinimax ou d'autres. Mais le traitement, il est accessible. Et aujourd'hui, grâce au système AMO, je pense que l'accès aux médicaments est encore plus facile. Mais il y a des efforts à faire par rapport à l'organisation.
Et à ceux qui ne sont pas couverts par cette assurance maladie obligatoire dont vous parlez?
Non, même ceux qui sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. En réalité, notre système de santé doit être organisé. Je m'explique. Même si vous êtes dans l'AMO, si vous arrivez à l'hôpital, dans un tableau de paludisme grave, bien entendu, ce que j'ai dit, c'est le paludisme grave qui tue. Vous arrivez à l'hôpital, il vous faut d'abord qu'on vous délivre l'ordonnance. C'est tout un parcours pour avoir accès aux documents de médicaments. Ensuite, sortir, aller chercher le médicament. Devant une urgence vitale, on a plus de chances de perdre la vie. Par contre, ailleurs, le système de santé est organisé de sorte
que... Quand vous dites ailleurs, dans d'autres pays?
Dans d'autres pays. Le Maghreb, je ne vais pas être très loin. Dans ces pays-là, si tu es assuré, dès que tu présentes ta carte à l'hôpital, la pharmacie hospitalière délivre tous les produits
automatiquement.
Et immédiatement on fait la prise en charge. Mmh. Donc là, il faut vraiment qu'on améliore la qualité de la prise en charge et l'organisation du tableau.
D'accord. Alors nous allons partir à Goundam, rejoindre Dr Mamadou Okoulibaly, médecin-chef de la localité. Par rapport à ce coût, à l'accessibilité du traitement du PALU, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, au jour d'aujourd'hui, au nord, surtout à Goundam, tous les soins sont gratuits.
Donc, il n'y a pas de tranche d'âge?
Il n'y a pas de tranche d'âge. Tout est gratuit au jour d'aujourd'hui. C'est la gratuité totale. Mais j'avoue, nous sommes confrontés souvent à des ruptures de médicaments compte tenu de l'approvisionnement, parce que les partenaires qui nous fournissent des médicaments, ils font des commandes internationales. Donc souvent, il y a des décalages entre l'exploration des besoins et puis l'acquisition des produits.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Dr Koulibaly. Nous allons revenir sur la recherche, l'état d'avancement de la recherche par rapport à au paludisme avec Dr Sagara. Dr Sagara, vous êtes du Malaria Research and Training Center, MRTC. Dites-nous, quel est aujourd'hui l'état d'avancement des recherches par rapport au palu?
Il faut séparer, peut-être, si je peux rapidement simplifier en disant, il y a deux types de recherches. Mmh. Donc, les recherches opérationnelles, et aussi ce que nous appelons maintenant les recherches fondamentales, y compris le vaccin. Donc, les recherches opérationnelles, nous sommes là-dedans continuellement aux côtés du PNLP. Vous savez, les outils qui sont en train d'être utilisés actuellement sur le terrain, comme je le disais, qui sont efficaces, et quand tout le monde utilise correctement et que la population est consciente, aussi suit les mesures, dormir sous moustiquaire, quand ils sont malades, ils consultent très tôt, et que le diagnostic au centre aussi, il le confirme avant de proposer un traitement oral par la combinaison thérapeutique, palu, guéri. Je disais qu'on peut déjà contrôler le palu même sans vaccin. Donc, ces mesures, ça veut dire que les intrants qui sont en train d'être utilisés actuellement, nous, aux côtés du PNLP, nous sommes en train de monitorer pour nous rassurer que, c'est-à-dire, ces médicaments continuent à marcher.
D'accord.
Par exemple, les tests qu'on utilise, aussi sont toujours fiables. Donc, nous faisons ces recherches opérationnelles. Et maintenant, en ce qui concerne les recherches fondamentales,
pour finir,
le vaccin aussi, voilà.
Pour finir?
Oui, les recherches vaccinales, nous sommes là-dessus. Si vous voulez, nous pouvons venir avec plus de détails, mais nous sommes là-dessus. Mmh. Je ne sais pas de quelles questions spécifiques vous souhaitez poser par rapport, par exemple.
Ceci nous suffit amplement, docteur. Merci beaucoup à vous, docteur Isiaka Sagara du Malaria Research and Training Center, MRTC. Également avec nous dans ce débat, docteur Mamadou Karim Touré, spécialiste médecine et catastrophe. Docteur Mamadou Koulibaly, médecin-chef de Goundam dans la région de Tombouctou. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Gagny Kanté est à la technique. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.